Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons lire le psaume 6, et c'est à la page 631 dans les Bibles bleues. Au chef de chœur avec instrument à cordes sur la harpe à 8 cordes. Psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me corrige pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car je tremble de tous mes os. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand me traiteras-tu ainsi? Reviens, Éternel, délivre-moi. Sauve-moi à cause de ta bonté. Car dans la mort, on n'évoque plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, mon lit est trempé de mes larmes. Il est inondé de mes pleurs. Mes yeux sont usés par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent les affaiblissent. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice, car l'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont remplis de confusion et d'effroi. Ils reculent, soudain couverts de honte.
Quand je vais avec ma famille aux États-Unis, où mes beaux-parents notamment résident, il nous arrive de temps en temps dans la voiture d'écouter une radio chrétienne, comme il y en a pas mal là-bas. Alors je ne vais pas désigner celle-ci nommément. Maintenant, ceux qui connaissent un peu les États-Unis et certains milieux chrétiens là-bas reconnaîtront peut-être le slogan de cette radio. Positif et encourageant. Positif et encourageant. La vie chrétienne, d'après cette façon de voir, ça laisse un peu entendre que ça doit toujours être du positif et de l'encourageant, des choses qui font du bien. Et dans un sens, ça se comprend. Contre la société qui est si souvent négative, parfois agressive, eh bien, quand on se retrouve entre chrétiens ou autour de la Bible, on a envie que ça soit positif et encourageant. Donc tout n'est pas faux dans cette conception des choses. Mais la question que ça pose, quand on présente un peu la vie chrétienne comme cela, face à une vision aussi uniforme de la spiritualité chrétienne, la question qui se pose est la suivante. Est-ce qu'il y a de la place pour la souffrance dans la vie avec Dieu? Est-ce qu'il y a de la place pour la souffrance dans la vie chrétienne? De la place pour la déception? De la place pour de l'incompréhension? Et le problème d'une vision uniquement positive et encourageante de la foi, c'est que souvent cette vision, elle se brise sur la dure réalité de notre monde. Et si nous ne sommes pas préparés à vivre aussi, pas seulement, mais aussi les difficultés et la souffrance, et l'incompréhension même parfois dans notre relation avec Dieu, eh bien le risque, c'est que face à la souffrance, nous perdions finalement le réflexe de nous tourner vers Dieu. Parce qu'on aurait comme l'impression un peu diffuse que finalement Dieu c'est pour peut-être les bons moments ou juste quand on est à l'église, mais pas pour les choses vraiment difficiles de la vie. Or, la Bible, elle, ne fait jamais dans le sentimentalisme superficiel, jamais. Et le psaume 6 en est bien un exemple frappant. Il nous dévoile la prière d'un homme qui est, comme on dirait aujourd'hui, au fond du trou. Alors, ce psaume nous est présenté comme un psaume de David. La question qu'on va se poser aujourd'hui est la suivante. En quoi Dieu est-il un recours, même dans la plus grande détresse? En quoi Dieu est-il un recours, même lorsque tout va mal? On va y réfléchir en deux étapes, un constat sans concession d'abord et ensuite un recours sans exception. D'abord donc un constat sans concession. Récemment, je demandais des nouvelles d'un ami que je n'avais pas vu depuis un certain temps et j'ai eu pour, en guise de réponse ce petit mot de sa femme, il ne va pas bien. Voilà, ça s'arrêtait là. Il y a des fois dans la vie où on n'a pas envie peut-être de dire grand-chose de plus que ça va pas bien. Et le moins qu'on puisse dire en lisant ce psaume 6, c'est que David ne va pas bien. Et il n'hésite pas à le dire au moment de prier, au moment de parler à Dieu, il n'hésite pas à le dire. Pour le positif et encourageant, on repassera, ou du moins on attendra un peu, parce que quand même ce psaume, on le verra, débouche sur l'espérance, et c'est important. Mais pour que l'espérance prenne tout son sens, il faut commencer par poser un regard lucide et un regard sincère sur ce qu'on vit. Et là, le psalmiste David pousse un véritable cri du cœur. Versets 2 à 4. « Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me corrige pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car je tremble de tous mes os. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand me traiteras-tu ainsi ?» Je ne sais pas quand vous avez prié comme ça pour la dernière fois. « Jusqu'à quand me traiteras-tu ainsi, Seigneur ?» Ce n'est peut-être pas dans nos habitudes. Alors attention, bien sûr, toutes nos prières n'ont pas vocation à être de ce type et dans cette tonalité, et j'y reviendrai. Mais il me semble que certains psaumes, dont celui-ci, nous montrent qu'il y a de la place dans nos vies de prière pour des cris du cœur qui expriment à Dieu notre lassitude et notre incompréhension. On notera que David ne manque pas de respect pour Dieu ici. Dieu est Dieu et il le sait très bien. Et au contraire, il reconnaît que Dieu a le contrôle ultime de la situation dans sa manière de prier. Mais il exprime sincèrement ce qu'il vit. Une chose qui me frappe à la lecture de ce texte, c'est de voir comment l'auteur, le psalmiste, décrit sa souffrance en termes à la fois moraux, physiques et spirituels. Et il commence le psaume par reconnaître, en sous-entendu, ses propres fautes, et le fait que Dieu pourrait, à bon droit, le juger. Verset 2, « Ne me punis pas dans ta colère, ne me corrige pas dans ta fureur. » Et c'est frappant de voir que David commence sa prière par ça. Il commence sa prière par cette reconnaissance de son état de pécheur. Alors, est-ce qu'il pense à quelque chose de précis qui s'est passé? Est-ce qu'il considère d'un point de vue plus général sa situation d'homme pécheur? C'est difficile à dire, on n'a pas tous les éléments. En tout cas, je peux me tromper. Et peut-être que c'est que pour certains, vous ne vous reconnaîtrez pas dans ce que je vais dire. Mais je dirais que pour la plupart d'entre nous, et pour moi en tout cas, ce n'est pas forcément mon premier réflexe dans la souffrance de reconnaître mes fautes. À notre époque, nous tendons à beaucoup cloisonner les choses. Alors on va avoir une catégorie pour la souffrance physique, une catégorie pour la souffrance morale ou spirituelle, peut-être une catégorie pour la confession de nos fautes. Mais c'est frappant de voir que dans la Bible, ces distinctions ne sont pas toujours si nettes que cela. Elles le sont parfois, mais pas toujours. Et dans certains cas, il y a un mal-être qui atteint toute la personne. Et on doit reconnaître qu'on est à la fois victime et fautif dans la situation difficile qu'on vit. À la fois victime et fautif. Et David commence par reconnaître qu'à strictement parler, il ne mérite pas la faveur de Dieu. Peut-être qu'il ne mérite pas non plus la souffrance qu'il subit, sans doute. Mais de là à considérer qu'il aurait comme un droit au bien-être, comme on pense souvent aujourd'hui, eh bien, il y a un pas que David ne fera pas. Il se sait pécheur, il sait qu'il y a quelque chose d'une rupture profonde avec Dieu, en lui, dans son cœur, dans sa nature, qui nécessite la grâce de Dieu. Or, le Dieu qui délivre est aussi le Dieu qui pardonne. On raconte, même si l'histoire n'a pas pu être absolument vérifiée, qu'un jour, l'homme de lettres britannique J.K. Chesterton, qui était chrétien, avait répondu à une question existentielle posée par un journal. Donc ce journal a posé une question et s'est adressé un peu à tous ceux qui voulaient essayer d'y répondre. Quel est le problème du monde ? On ne peut pas faire beaucoup plus existentiel et général comme question, mais s'il y a un problème dans le monde, quel est-il ? Et il semblerait que Chesterton ait écrit au journal pour répondre... En réponse à votre question, quel est le problème du monde ? Je réponds, c'est moi. Le problème du monde, c'est moi. Et au-delà du côté un peu provocant, c'est très fin ce que dit là Chesterton, parce que c'est quelque chose que tout le monde pourrait prononcer. Une phrase que tout le monde pourrait prononcer. Si le monde va mal, c'est qu'il est peuplé d'hommes et de femmes qui pratiquent et qui pensent le mal, à plus ou moins grande échelle. Alors c'est dur de dire cela et de le reconnaître, c'est pas du tout dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps de reconnaître que les autres font le mal, ça complètement, mais soi-même, c'est beaucoup plus difficile. Et sans doute plus encore à notre époque où la vertu de l'homme a tendance à être exaltée et la souveraineté de Dieu diminuée, voire complètement niée. Et il me semble que nous pouvons méditer ce réalisme de David, à la fois sur sa souffrance, et il ne mâche pas ses mots en parlant de sa souffrance, mais aussi sur la réalité de ses insuffisances et de ses fautes. Et je me dis que c'est un rappel pour nous de ne pas oublier, au moment de nous tourner vers Dieu pour lui demander son aide, comme nous le faisons régulièrement, de ne pas oublier que c'est un Dieu de grâce que nous nous adressons, et un Dieu qui pardonne. Et si ce n'était pas le cas, nous n'aurions aucune relation avec lui, on n'aurait même pas la possibilité de le prier. Donc venons à lui non pas comme des clients qui revendiquent un bien, mais comme des pécheurs pardonnés, qui viennent vers le Dieu qui leur a accordé le pardon. Et c'est l'attitude de David ici, il se reconnaît pécheur, mais il s'adresse précisément au Dieu qui fait grâce. Verset 3. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car je tremble de tous mes os. Peut-être que vous avez déjà vécu une situation où vous êtes tellement pris par ce qui vous arrive, par une situation douloureuse, que vous vous sentez comme écrasé, impuissant. Ça affecte vos pensées, mais aussi votre corps. Peut-être que vous avez perdu l'appétit, vous avez du mal à dormir. Difficile de se concentrer sur les choses, même les plus basiques du quotidien. David semble souffrir dans sa chair parce qu'il fait appel ici à la guérison de Dieu. « Guéris-moi ». Il décrit son mal, vous l'aurez remarqué, en termes très physiques. « Je tremble de tous mes os ». Fin du verset 3. « Je tremble de tous mes os ». Et plus loin, versets 7 et 8, « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, mon lit est trempé de mes larmes. Il est inondé de mes pleurs. Mes yeux sont usés par le chagrin. » Les termes sont forts quand même. Les termes sont forts. Et je crois que nous devons nous arrêter un instant pour prendre conscience que nous avons ici une prière de la Bible. Dieu a voulu que nous ayons dans sa parole ce type de prière. Dieu a inspiré même ses propos, c'est ce que nous croyons, pour nous qui sommes chrétiens. N'est-ce pas une invitation pour nous qui prions à l'authenticité, à l'expression sincère et parfois brute de nos difficultés, dans la confiance en Dieu, c'est pour ça qu'on le prie, et dans le respect de qui il est et de sa souveraineté. Si Dieu n'était pas souverain, ça servirait à rien de le prier. Combien on est loin en tout cas de la spiritualité triomphante que veulent vendre certaines fausses doctrines en vogue, où tout est toujours triomphe et victoire. Mais je voudrais terminer ce premier point par quelques précisions. D'abord, il me semble que l'état d'esprit de David dans ce psaume, cette détresse qu'il vit, a sa place, je l'ai dit, dans la vie du croyant. Maintenant, il ne faudrait pas exagérer, voir les choses de façon disproportionnée et faire comme si c'était une situation normale dans la vie du croyant, ce que décrit David ici. Oui, nous passons par des épreuves dures et parfois notre douleur prend des proportions qui deviennent à la limite de ce qui est supportable. Mais il ne faudrait pas en conclure que la vie du croyant n'est qu'une vallée de larmes et c'est tout, qu'elle n'est qu'épuisement, incompréhension et crainte et tremblement permanent. Il y a 150 psaumes et ils ne sont pas tous, loin s'en faut, dans la même tonalité que celui-ci. Dieu est bon, il veut notre joie. Il ne nous préserve pas de la souffrance dans le monde présent, mais il nous invite à la vivre avec lui et à le suivre sur le chemin de souffrance qu'il a lui-même emprunté en Jésus-Christ. Un chemin qui débouche sur la résurrection, la joie et la vie. Dieu est un Dieu qui relève et un Dieu qui aime faire du bien. Son cœur est bon. Est-ce que nous le croyons ? Son cœur est bon. Et c'est précisément parce que David sait cela qu'il peut lui ouvrir son cœur comme il le fait ici. Malgré tout ce qu'il ne comprend pas, il sait que Dieu est bon. Il sait que les projets de Dieu pour lui sont ultimement de bons projets et il garde confiance en Dieu. L'autre précision que je voudrais apporter concerne le but d'une telle prière. Pourquoi prier une telle prière ? Une conception tentante peut-être pour nous aujourd'hui, parce que c'est assez dans l'air du temps, très moderne dans la façon de penser, ça serait de dire qu'on prie ainsi avant tout parce que ça nous fait du bien. Ah, il fallait le dire, ça fait du bien une fois que c'est dit. Et puis, il faut être vrai avec nous-mêmes, ou on doit mettre des mots sur notre douleur. Et tout cela est vrai. Tout cela est vrai dans un sens limité. Il ne s'agit pas de le nier. Mais rappelons qu'il s'agit ici d'une prière. Et si David prie dans des termes aussi vigoureux, c'est avant tout parce qu'il veut toucher le cœur de Dieu. Les prières sont des paroles que nous adressons réellement à un Dieu qui nous écoute réellement, pour de vrai. Et c'est dans cette assurance que David va trouver son réconfort et que nous sommes invités, je crois, à trouver le nôtre. Et ça nous amène à notre deuxième point, un recours sans exception. beaucoup d'entre nous, pas tous malheureusement, mais bon, voilà, beaucoup d'entre nous étaient au week-end d'église la semaine dernière, c'était super. Et pour ceux qui sont arrivés devant des portes closes parce qu'ils n'avaient pas eu l'info, toutes nos excuses. On a essayé de communiquer aussi clairement que possible là-dessus, mais il y a inévitablement eu quelques ratés. Mais tout ça pour dire, je m'égare, qu'à notre week-end d'église, nous avons eu comme orateur donc Jacques Buchol, professeur de Nouveau Testament à la faculté de théologie à Vaux-sur-Seine, dans les Yvelines. Et c'était donc l'orateur de notre week-end. Alors, je vais parler derrière son dos, mais comme c'est pour dire des choses positives et encourageantes, non, comme c'est pour parler de lui en bien, je me sens libre de lui rendre ce témoignage. Lorsque j'étais étudiant en théologie à cette faculté, à Vaux-sur-Seine, et qu'il était non seulement professeur, mais doyen de la fac, Jacques Buchol était quelqu'un qui, si on commençait à discuter un peu, soit d'une question qui pouvait être personnelle, une question concernant notre avenir personnel, ou d'une question concernant la Bible et la théologie, il disait très facilement, viens dans mon bureau, on va discuter. Tiens, tu veux un café ? Il était d'une grande simplicité d'accès. Alors j'espère ne pas en avoir abusé, mais c'était frappant de voir à quel point il était facile d'approche. C'est vrai que je le connaissais un peu par ailleurs à titre privé, mais avec tous les étudiants, il avait cette facilité d'approche. Et il était vraiment heureux de nous écouter. Alors évidemment, on change maintenant complètement de dimension, on est bien d'accord. Mais une chose qui ressort nettement de ces psaumes, c'est que le Dieu que David et les autres psalmistes prient est un Dieu facile d'approche et heureux d'écouter. Alors, vous me direz, oui, mais c'est paradoxal, parce que pourtant, dans l'Ancien Testament, il y a des choses qui nous montrent qu'on ne peut pas se présenter comme ça devant Dieu, il y a tous les sacrifices, etc. Bien, c'est toute la merveille de la grâce de Dieu, c'est qu'il s'est rendu facile d'approche, alors qu'il ne devrait pas l'être. Notre péché devrait nous séparer de lui. Mais il a choisi de venir vers nous et de se rendre facile d'approche. Un Dieu qui, du coup, est prêt à nous écouter et qui est heureux de nous écouter. Et David, même dans les circonstances particulièrement difficiles qu'il vit, eh bien, il sait que Dieu est là et il sait que Dieu l'écoute. Et d'ailleurs, même, pour faire une parenthèse et un saut dans le temps, même Jésus sur la croix, bien des siècles plus tard, après David, passant par la pire des épreuves qui ait jamais été vécue par un homme, non seulement la souffrance physique de la croix, mais bien plus la condamnation de notre péché qui est tombée sur lui à notre place, passant donc par la pire des épreuves, pouvait encore prier, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Marc 15, 34. Matthieu 27, 46. Même dans l'enfer de la croix, au sens strict, de la condamnation subie à notre place, Jésus pouvait encore prier. Et quelques instants plus tard, la paix déjà revenue, il pouvait remettre son esprit entre les mains du Père. Luc 23, verset 26. Le plus grand réconfort que puisse avoir l'être humain, c'est de se savoir lié à Dieu par une relation indestructible. Un Dieu qui nous invite à lui parler, qui nous invite à lui faire confiance. Et c'est l'une des choses les plus frappantes dans ce texte, un Dieu qui est prêt à se laisser convaincre. Je crois qu'on peut le dire à la lumière de ce texte et d'autres dans la Bible. Regardons ce que David utilise comme argument, entre guillemets, pour convaincre Dieu de le secourir. Versets 5 et 6. « Reviens, Éternel, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta bonté, car dans la mort, on n'évoque plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts ?» C'est saisissant comme phrase. David fait appel à un argument logique pour convaincre Dieu. Il dit « Attends, je vais te donner un argument. Dans la mort, on n'évoque plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts ?» David constate que si Dieu le laisse mourir, il ne pourra plus le célébrer par sa manière de vivre comme il le fait actuellement. David argumente avec Dieu. Et à vrai dire, la Bible nous offre plusieurs exemples de cela. Alors avant de revenir un instant sur les questions théologiques que ce verset peut poser, je pense d'abord qu'il faut résister et c'est déjà un début de réponse, il faut résister à une caricature qui pourrait être faite de cela. Certains pourraient dire, en lisant ça, que Dieu est vu ici comme un Dieu capricieux et complexé, qui aurait besoin toujours d'entendre des gens le louer, dire du bien de lui, comme s'il avait besoin de se rassurer. Et David, là, le manipulerait en disant « T'as besoin de quelqu'un pour te flatter, alors tu devrais préserver ma vie. » Mais je crois que si on voyait les choses ainsi, on serait très loin de l'esprit de ce psaume. D'abord, cette phrase de David souligne le fait que pour lui, l'essentiel de la vie, c'est d'adorer Dieu. C'est là l'essentiel. Et déjà là, si vous me permettez l'expression, on prend une petite claque peut-être en lisant cela. En tout cas, moi, oui. Quoi donc, le but de la vie ne serait pas d'avoir un bon métier, d'avoir une vie sentimentale, puis de famille épanouie, un achat immobilier au parfait moment quand les taux sont bas, les enfants qui font de la harpe et du clavecin, ou qui mangent bio? C'est pas ça le sens de la vie? Eh bien non, pour David, l'essentiel de la vie, c'est de connaître et d'aimer Dieu, de le louer, c'est-à-dire de vivre une vie qui l'honore et le célèbre. C'est ça qui est le plus important. On ne nie pas le reste de la vie, mais tout prend son sens par cela. Donc David n'est pas en train de manipuler Dieu ici, il souligne ce qui est essentiel pour lui, et il s'appuie sur ce qu'il sait de Dieu, à savoir que c'est un Dieu relationnel. Non pas un Dieu qui a besoin d'entendre tout le temps les hommes lui faire des compliments, mais un Dieu qui aime la communion avec les hommes et les femmes, les êtres humains. Un Dieu qui a précisément pensé la vie humaine pour cela, la communion avec lui. David sait aussi, et ça fait partie de son argumentation, que Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vie. Et avec sa perspective encore limitée et incomplète sur le plan de Dieu, en tant que croyant de l'Ancien Testament, vivant avant la venue de Jésus-Christ, David a ce cri du cœur parfaitement légitime, « Ne me laisse pas mourir et perdre ainsi cette communion avec toi, cette vie vécue pour toi. » David comprend à juste titre que la mort en tant que telle, eh ben c'est la fin de la vie, je dirais, c'est évident, mais c'est l'ennemi qui vient s'interposer entre l'homme et son Dieu qui lui a donné la vie. Ça n'empêche pas David d'exprimer à d'autres endroits dans les psaumes son espérance que Dieu le délivrera même de la mort. Et cette espérance, elle est confirmée à bien des reprises dans la Bible et en particulier dans le Nouveau Testament. Et c'était en partie d'ailleurs le thème de notre week-end d'église. Mais il ne faudrait pas oublier, en disant cela, en rappelant notre espérance, il ne faudrait pas oublier que la mort est un ennemi, un affront à la vie que Dieu a créée et pour laquelle Dieu nous a créés. Et nous le ressentons bien lorsque nous pleurons un être cher. Même lorsque cet être cher connaissait le Seigneur, nous pleurons, nous sentons cette douleur parce que la mort, au fond, n'est pas normale, parce que cette rupture de la relation, ce n'est pas pour ça que nous avons été créés. La mort est une conséquence qui remonte à la nuit des temps de l'égarement humain, de la perdition humaine. Une conséquence qui, en tant que telle, nous prive de la communion avec Dieu à laquelle nous aspirons. À moins que Dieu ne vienne briser la mort de l'intérieur, la dompter pour qu'elle soit réduite à devenir un passage vers la vie dans toute sa force. Et c'est ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Nous n'avons pas été créés pour la mort, mais pour la vie. Et Jésus est venu pour rétablir notre relation avec le Dieu de la vie. Et David sait cela, et il s'appuie sur cette assurance pour prier Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul pourra s'exclamer dans sa lettre aux Romains que « ni la mort ni la vie ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur ». Romains 8, 38. Et c'est pour ça que même dans l'épreuve la plus dure, nous pouvons avoir l'assurance d'un Dieu bon qui a fait l'inimaginable pour nous sauver de la perdition et de la mort. Un Dieu bon qui nous aime, qui nous écoute. Un Dieu qui a de bons projets pour nous. On lit cette assurance dans cette prière qui atteint des profondeurs de détresse, comme on l'a vu, mais qui se termine par des paroles d'assurance. L'Éternel exauce mes supplications, versets 10 et 11. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont remplis de confusion et d'effroi. Ils reculent sous d'un couvert de honte. David parle peut-être, sans doute, de certains ennemis humains, lui qui était roi d'Israël, qui avait un paquet d'ennemis. Au-delà, je crois qu'on, et le Nouveau Testament le confirme, que les ennemis véritables sont des ennemis spirituels qui veulent nous faire chuter dans notre marche avec Dieu. Mais l'Éternel exauce nos supplications et ses ennemis sont remplis de confusion et d'effroi. Il y a du mystère dans cette manière de parler du monde invisible, mais ça n'en est pas moins vrai. Les défenseurs d'une certaine vision du progrès humain, qui est un peu la vision dominante peut-être aujourd'hui, parlent parfois, c'est une expression qu'on lit de temps en temps, de l'arc de l'histoire, qui nous fait passer par bien des aléas, mais qui inévitablement va aboutir vers le progrès de l'homme. Et je crois que c'est une caricature et même une perversion du récit biblique, pour qui le temps et l'histoire vont effectivement vers quelque chose, mais vers un jour où Dieu aura le dernier mot sur toute chose. Et confier sa vie à ce Dieu-là, un Dieu qui maîtrise l'histoire du monde et l'histoire de chacun, un Dieu qui a de bons projets pour nous, c'est le choix essentiel que chaque homme, chaque femme, chaque enfant est appelé à faire. Et lorsqu'on se sait aimé par ce Dieu-là, lorsqu'on sait qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, comme nous dit Jésus, alors même dans la plus grande détresse, on va pouvoir encore prier. On va pouvoir répandre ses larmes et ses doutes, oui, son incompréhension, ses cris du cœur. Mais on peut avoir l'assurance que ceux-ci ne durent qu'un temps, ne dureront qu'un temps, mais qu'ils seront bientôt effacés pour toujours par la vie et par la paix. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que tu as permis qu'il y ait un texte comme celui-là dans la Bible. Il est tellement fort qu'il peut nous déstabiliser un peu, mais combien il rejoint ces moments les plus difficiles de nos vies, que certains peut-être sont en train de vivre en ce moment même, et que d'autres peut-être ont vécu par le passé, ou vivront un jour. Et nous voulons être préparés pour ces temps-là, et nous rappeler que même dans ces moments-là, tu es là, tu nous accompagnes, tu nous emmènes sur un chemin qui débouche non pas sur la mort, mais sur la résurrection et la vie. Un chemin que Jésus lui-même a tracé pour nous, qu'il a emprunté avant nous. Nous voulons te remercier pour cette assurance. Donne-nous de pouvoir, pousser ces cris du cœur, mais aussi, comme David, trouver du réconfort dans l'assurance de ce que tu es et de ce que tu nous promets, et de ce que tu nous promets suprêmement en Jésus-Christ, ton Fils. Et c'est dans son nom que nous te prions. Amen.